Bonjour. J'ai toujours beaucoup aimé James Bond, les films de James Bond, je pense comme beaucoup d'hommes parmi nous. J'aimais beaucoup parce que James Bond avait toute la technologie possible et imaginable à son service. Il avait des ressources financières extraordinaires et il avait des aventures qui le menaient jusqu'aux confins de la planète. Et dans un James Bond, il n'est pas rare de voir plusieurs scènes qui se déroulent dans au moins 4 ou 5 pays différents. J'aimais cette liberté qu'il semblait avoir. Et il y a dans James Bond quelque chose de particulier, c'est que son gouvernement lui donne la licence 00. Et la licence 00 est ce qu'on appelle « license to kill ». C'est-à-dire qu'il est couvert par son gouvernement et peut commettre tous les actes possibles et imaginables au service de Sa Majesté, bien sûr. Mais c'est de la fiction. C'est de la fiction. Pourtant, il semble que certains chrétiens voyaient la liberté qu'ils avaient reçue dans leur salut en Jésus-Christ comme une licence qui leur permettait de vivre comme ils voulaient. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus sont graciés, sont justifiés de toutes leurs fautes. Ils n'ont plus besoin d'accomplir le moindre acte religieux, d'offrir le moindre sacrifice à Dieu pour être pardonnés, puisque Christ lui-même est le sacrifice parfait qui s'est offert, et ils sont donc au bénéfice de ce salut. Et ils n'avaient plus à accomplir tous les rites qu'il y avait dans la loi de Moïse pour espérer être sauvé. Le chrétien est libre des exigences de la loi religieuse puisqu'il est placé sous le régime de la grâce. L'apôtre Paul prêchait à toutes les églises cette vérité. Et pour les Corinthiens, une ville, la ville de Corinthe, que Paul connaissait très bien, cette liberté était comprise comme une forme de licence to kill. Puisqu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, eh bien, l'usage de la liberté pour eux se résumait à faire n'importe quoi dans l'Église. Et je voudrais vous lire maintenant ce que Paul leur rappelle par rapport à cette liberté. Ça se trouve dans donc, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6. Donc le chapitre 6 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, et ce sont les versets 12 à 20 que je vais lire. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments, certes. Cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée ? Sûrement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Là, il cite la Genèse chapitre 2, verset 24. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez Dieu dans votre corps. Si nous devions résumer ce que Paul veut leur communiquer par rapport à la liberté et son usage. Que dirions-nous ? Moi, je vous propose ceci. Paul veut leur expliquer que parce que nous ne nous appartenons plus, le seul usage légitime de notre liberté est celui qui consiste à glorifier Dieu. Le seul usage légitime de notre liberté est de glorifier Dieu par une vie qui est sainte. Et comment Paul s'y prend-il pour donc leur faire comprendre, leur communiquer cette vérité ? Je vois deux grandes choses dans la stratégie de Paul, et ce sera les deux éléments principaux de cet enseignement. D'abord, Paul veut dénoncer l'usage illégitime de leur liberté, un usage de la liberté qui est pour péché. Il fait ça surtout au début dans les versets 12 à 14. Mais il va aussi plaider pour l'usage de la liberté qui est à la gloire de Dieu et rappeler quelles sont les motivations pour ça et pourquoi ça doit être cet usage-là de la liberté. Ça, c'est dans la suite du texte jusqu'au verset 20. Alors, voyons comment Paul s'y prend pour dénoncer leur usage d'une liberté qui est là comme un prétexte pour pécher. Premièrement, il veut dénoncer l'absurdité de leur raisonnement. L'immense majorité des spécialistes pensent que Paul utilise ici deux adages qui étaient vraiment courus à l'époque des Corinthiens et dans leur ville. Le premier est « tout m'est permis » et le deuxième est « les aliments sont faits pour le ventre et les ventres sont faits pour les aliments ». C'était des adages qui venaient d'une redécouverte qu'il y avait au 1er siècle, notamment dans l'Empire romain, d'une pensée grecque de Platon, du néoplatonisme, une nouvelle compréhension et une réappropriation de Platon, qui avait une vision très dualiste du monde réel. Il y avait d'un côté le corps et tout ce qui était matériel, et de l'autre côté tout ce qui était de l'ordre du spirituel. Et les chrétiens avaient tendance à croire que, eh bien, Dieu est esprit, Dieu parle et sauve notre esprit, notre âme, et donc il n'y a que ça qui compte, et finalement, ce que l'on fait avec notre corps n'a pas tant d'importance que ça. Et leur liberté, donc, en Christ, les autorise à dire « tout m'est permis avec mon corps ». Quand j'ai de l'appétit, eh bien, je mange pour le satisfaire. Eh bien, quand j'ai de l'appétit sexuel, eh bien, je peux le satisfaire puisque tout m'est permis. À Corinthe, il y avait des prostituées qui étaient là pour servir aux rituels religieux païens, et aller voir une prostituée était quelque chose de somme toute assez banal, comme aujourd'hui aller consulter de la pornographie. Et donc il y avait plusieurs actes dans cette église-là que Paul dénonce, qui étaient vraiment des grosses dérives quant à la sexualité. Et Paul est plein d'ironie ici en citant ces citations du platonisme, puisqu'il veut dénoncer justement que tout n'est pas permis. Dieu a bien une volonté morale. Tout est permis, Paul dit, tout n'est pas bon. Tout est permis, pas d'être esclave du mal. Et donc, ce que Paul dénonce là, c'est qu'une liberté déconnectée de son but conduit inévitablement à toute forme de péché, dont l'immoralité, et l'immoralité conduit à l'esclavage du péché. Être libre de faire ce que l'on veut quand on n'est pas parfaitement vertueux implique être libre de faire le mal et, en faisant le mal, de succomber aux tentations et d'en être emprisonné et de se retrouver moralement aveuglé, contaminé et perverti jusqu'à légitimer toutes sortes de mal. Et c'est l'esclavage moral que Paul dénonce ici. Où est la liberté si on est devenu esclave en faisant le mal ? Est-ce vraiment libre est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'on est libre alors qu'on est esclave du mal ? Et Paul met donc ces Corinthiens face à une réalité qu'ils niaient. À ces personnes qui vivaient sans se préoccuper de l'importance de leurs actes et de ce qu'ils faisaient de leur corps, Paul leur rappelle « Dieu le détruira ». Verset 13. « Dieu le détruira ». Et Paul choisit ces mots ici. Finalement, l'expression « mourir de mort naturelle » n'est pas une expression biblique et qui n'est même pas une expression qui est juste théologiquement parlant, puisque la vie telle que nous la connaissons Et sa mort qui intervient n'est pas une fin qui était voulue par Dieu lors de la création. C'est une fin, c'est Dieu qui met un terme à une humanité qui est déchue. La mort est la conséquence du péché selon la justice de Dieu. Et donc Paul leur dit, vous dites que vous pouvez faire n'importe quoi avec votre corps, mais je vous démontre que c'est faux, puisque vous allez mourir. C'est qu'il y a donc un jugement moral sur la façon dont on utilise son corps. C'est le jugement de Dieu. Et Paul, donc, va avancer deux raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire ce que l'on veut de notre corps. La première, regardez, c'est le verset 13, Paul dit que le corps n'a pas été créé pour l'inconduite. Là, Paul revient à l'origine de ce qu'est le corps. Pourquoi est-ce qu'il a été créé ? Le corps a été créé pour fonctionner selon le cadre moral que Dieu lui a donné. Et pour Dieu qui est créateur, ce qu'il crée doit refléter qui il est. Et donc le corps et la façon dont on utilise notre corps et notre sexualité doit être manifesté que nous appartenons à Dieu et qu'il nous a créés. Sur tous les appareils que vous achetez, il y a une notice d'utilisation. Eh bien, c'est pareil. L'homme a été créé avec une notice d'utilisation qui a été donnée par Dieu. Et donc, c'est de vivre la sexualité au sein du mariage à cause de ce pourquoi il a été créé. Dire que l'on est libre de tout, c'est nier l'origine du corps. Donc Paul passe de l'origine, et la deuxième raison qu'il va évoquer, c'est la résurrection, verset 14. Donc il évoque l'origine et la destinée du corps. Ce pourquoi nous avons été créés et ce à quoi nous sommes destinés nous informe de l'usage légitime que nous devons avoir de notre liberté. Et l'Évangile, les Écritures, nous rappelle que Dieu honore notre corps et qu'il est même impliqué, tellement il est important, dans la résurrection. Dans l'éternité, il y aura bien un être physique. Nous serons des hommes et des femmes qui auront été ressuscités. Et ça, dans la pensée néoplatonicienne, c'était quelque chose qui était rejeté, puisque la matière était mauvaise. Et donc, s'il y avait une vie éternelle, elle était simplement spirituelle. Paul rappelle que non, il y aura une résurrection, Christ lui-même est ressuscité, nous aurons des corps pour l'éternité. Et donc Paul leur dit, regardez votre origine, regardez ce à quoi on est destiné, comment entre ces deux pôles qui sont sains, vous pouvez en faire un usage qui est si mauvais. Ce n'est pas permis. Et c'est ainsi qu'après avoir fait démontrer l'absurdité de leur raisonnement et comment les Écritures leur disent que ce n'est pas possible de penser qu'on est libre de faire ce qu'on veut avec son corps, que Paul va plaider pour un usage de la liberté qui est pour la gloire de Dieu. Et Paul, toujours avec ironie, va utiliser trois fois une même question rhétorique. Hein, je relis. « Ignorez-vous que vos corps sont les membres du Christ ?» Ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle ? Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit ? En leur posant cette question, quand ils lisent cette lettre-là pour la première fois, ce que Paul veut leur dire en posant une question rhétorique, c'est « Vous savez très bien, vous le savez très bien, je vous l'ai enseigné, vous le savez. » Donc imaginez que je reformule ce que Paul dit sans cette phrase-là, mais en remplaçant par « vous savez très bien ». Vous savez très bien que dans votre corps, vous êtes unis à Christ. Non mais ça ne va pas la tête d'aller voir des prostituées. Vous le savez très bien que l'adultère vous unit aussi bien au-delà du corps, mais même votre âme. Non mais ça ne va pas la tête de croire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous savez très bien que l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous êtes consacré à vivre dans la sainteté dans votre corps. Ça ne va pas la tête de croire que vous êtes destiné à autre chose que de glorifier Dieu, y compris dans votre sexualité. Voilà ce que Paul veut leur communiquer. Et donc, il leur donne en tout quatre raisons pour lesquelles ils doivent utiliser de leur liberté à la gloire de Dieu. La première qu'il évoque, c'est que nous sommes déjà unis à Jésus-Christ. parce que le salut est quelque chose qui nous transforme dans ce que nous sommes au plus haut point. Le salut que nous recevons ne consiste pas simplement dans le pardon de nos fautes, mais dans une nouvelle nature, une nouvelle naissance qui crée une nouvelle identité et qui nous confère une nouvelle vocation. Et cet élément-là, c'est une vérité biblique, une doctrine qui est essentielle dans le Nouveau Testament, que Paul rabâche sans cesse. L'œuvre de l'Esprit de Dieu est de nous unir à Christ, en nous unissant non seulement à sa mort, mais à sa résurrection, pour nous communiquer une vie nouvelle. En étant unis à sa mort, nous recevons le pardon et la purification de nos péchés, et en ressuscitant, nous recevons une nouvelle vie, une nouvelle identité et une nouvelle vocation. La nouvelle naissance donc consiste à nous faire participer à la vie de Christ ressuscité. Nous sommes unis avec lui, unis à lui. Et pour donc aider à comprendre cette union-là, qui c'est vrai, quelque chose qui nous dépasse, hein, qui va au-delà de notre raisonnement, c'est quelque chose qui est difficile à saisir, Paul utilise ce qu'est le mariage, une alliance qu'il y a, une alliance créée par Dieu. Hein, il a cité le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, où il dit que Dieu unit un homme et une femme par un lien particulier qui est celui du mariage, qui est une alliance. Et cette union fait des deux personnes une. 1 plus 1 égale 1. Les deux ne feront qu'une seule chair. Et dans cette perspective-là, la relation sexuelle est donnée au couple marié pour être l'acte physique le plus intime qui puisse exister entre deux personnes. Tellement intime qu'il est réservé simplement à un cadre très précis qui est celui du mariage. Et donc la conséquence de ça, si vous êtes unis avec Christ, comme vous êtes unis avec votre conjoint dans le mariage, vous ne faites plus qu'un. Si vous êtes unis avec Christ, lorsque vous avez un rapport sexuel avec une prostituée, vous amenez Christ à coucher avec cette prostituée. Voilà ce qu'ils doivent comprendre. Nous unissons Christ à ce qu'il y a de plus laid, nous l'unissons à nos souillures quand nous péchons. Nous vivons à une époque où la sexualité vécue en dehors du cadre du mariage est désormais la norme. Un dernier recensement fait par l'IFOP rappelle que maintenant, par exemple, simplement pour les naissances, on est arrivé à plus de 53% de naissances en dehors du mariage. Et les sondeurs veulent rappeler par là que maintenant toutes les normes d'un héritage judéo-chrétien sont complètement dépassées dans notre société. L'Église, d'une manière générale, n'est pas épargnée. Toutes les églises locales, il leur arrive d'être confrontées à des cas d'adultère. C'est une réalité. Et il serait statistiquement pas fou de penser que même parmi nous, ensemble ce matin, il y ait des personnes qui puissent se retrouver dans cette situation-là. Mais je vous propose, moi, qu'on élargisse un petit peu la pensée de Paul, et sans en tout cas aller au-delà de ce qu'il veut dire. Mais certes, l'adultère commis avec quelqu'un d'autre est quelque chose de très grave. Mais dans les Écritures, dans l'esprit de Paul et dans l'enseignement de Jésus surtout, il rappelle que l'adultère commence déjà dans nos pensées, qu'alors même que nous avons pensé à l'adultère devant Dieu, nous l'avons commis. Et combien d'entre nous, peut-être, ont regardé de la pornographie encore cette semaine ? Combien d'entre nous ont-ils nourri des fantasmes sentimentaux ou érotiques vis-à-vis de connaissances, de collègues de travail, ou du club de sport, ou d'amis, ou d'inconnus même ? Combien ont-ils choisi de regarder un film ou une série, sachant pertinemment à l'avance qu'il y avait des scènes d'unité explicites, etc., et donc de vouloir s'exposer consciemment à de la nudité ? Combien, ont pu penser « Ah, si seulement je m'étais marié avec lui ou elle plutôt qu'avec celui avec qui je suis. » Toutes ces pensées-là, devant Dieu, sont autant d'adultères. Et aucun de nous, moi le premier, n'en sommes épargnés. Et pour nous aider dans ce combat, Paul nous rappelle quelque chose. Nous qui sommes unis à Christ, nous l'impliquons quand nous avons péché. Et ce péché dans lequel nous l'impliquons, pour lequel, justement, il est mort, afin que nous en soyons délivrés. Rappel, franchement, de la part de Paul, où là, il tape avec le marteau dur en écrivant cette lettre-là pour faire réaliser vraiment la réalité de la laideur du péché. Et Paul poursuit en disant « Nous sommes le temple où réside le Saint-Esprit » au verset 19. Et en rappelant cette réalité-là, Paul fait appel à tout un héritage qu'ont les chrétiens qui leur rappellent leur vocation. En définissant le corps comme le temple, Paul se met en opposition avec cette pensée néoplatonicienne qui fait que le corps est simplement mauvais. Non, le temple de Dieu était ce qu'il y avait de plus sacré dans le culte de l'Ancien Testament. Dans l'histoire d'Israël, le temple était le lieu unique où Dieu résidait et dans lequel le peuple pouvait le rencontrer. Ce temple et tout le système de sacrifice qui était adjoint était une pédagogie par le symbole pour rappeler qu'il n'y a qu'un seul moyen de rentrer dans la présence de Dieu. Et Jésus lui-même dira que c'est lui le temple. Il est lui-même le temple puisqu'il s'offre en sacrifice parfait et nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Jésus est le temple. Et dans le Nouveau Testament, dans la suite de l'enseignement, ce que fait Paul, c'est qu'il poursuit cette métaphore en disant « Le temple, c'est Jésus, mais maintenant Jésus vit dans son Église. » Donc l'Église est le temple. Et vous, individuellement, chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Le temple était consacré à la pureté. Notre corps doit être consacré à la pureté. Le temple était consacré à accueillir Dieu. Eh bien, c'est dans notre corps que nous accueillons le salut et que nous accueillons la présence de Dieu par son esprit. Le temple était le lieu consacré pour le culte offert à Dieu. Eh bien, Paul leur dit que c'est dans notre corps que nous rendons un culte à Dieu et que nous devons donc avoir une sexualité qui est saine. La sainteté est ce qui doit caractériser la vie chrétienne. Troisième image que Paul utilise, enfin, troisième affirmation plutôt, Paul leur dit quelque chose qui est encore une fois pour nous vraiment contre-culturel et choquant, tout ce que vous voulez. Paul leur dit « Vous ne vous appartenez pas parce que vous avez été rachetés à grand prix. » Nous appartenons au Père qui nous a créés, nous appartenons au Fils qui nous a rachetés et nous appartenons à l'Esprit qui réside en nous. Et ce que Paul veut leur montrer comme implication, c'est que nous sommes tentés tous par l'autonomie, tentés par l'autodétermination, dire nous-mêmes ce à quoi nous pouvons aspirer, comment nous pouvons vivre et fixer notre code moral. Mais étant rachetés, nous n'avons pas le droit de dire ça, puisque nous ne nous appartenons plus. Quand j'achète quelque chose, j'estime que c'est à moi. Imaginez que vous commandiez une pizza et que la pizza arrive livrée et qu'elle a déjà été croquée abondamment par le livreur. Est-ce que vous pourriez tolérer ça ? Imaginez qu'en rentrant chez vous à midi, vous trouviez des squatteurs qui vivent chez vous, dans votre maison, qui utilisent vos affaires et qui mettent le bazar. Est-ce que vous pourriez tolérer ça ? Bien sûr que non. Eh bien, Dieu ne tolère pas qu'on fasse ce qu'on veut avec quelque chose qui lui appartient. Il est notre propriétaire. Notre vie lui appartient, notre argent, notre corps, notre temps, nos capacités, nos biens, nos talents, notre église, notre travail, toutes choses lui appartiennent, notre vie lui appartient. Et à chaque fois que je pense ou que j'agis comme si je devais des comptes à personne, je dis à Dieu, tu dois renoncer à tes droits. Parce que je décide de prendre les miens. Rien ne nous appartient. Et Paul va donner une quatrième affirmation, c'est le prix auquel nous avons été rachetés. Verset 20, parce que nous avons été rachetés à grand prix. Nous devons l'honorer parce que nous devons prendre en compte quel a été le coût pour Dieu de ce rachat. Ce n'est pas un rachat qui est une forme d'esclavagisme où Dieu nous prendrait et dirait « maintenant je veux vous tenir comme esclave ». C'est un rachat de notre condition de pécheur, un rachat qui a coûté à Dieu quelque chose qui a une valeur infinie et éternelle. C'est la vie de son Fils. Pour nous racheter de notre condition d'esclave, il ne fallait rien de moins que Dieu le Fils se fasse homme et qu'il meure. Et par son sang, nous recevons ce pardon. Par son sang, nous sommes lavés et purifiés. Envers Paul, envers les Corinthiens, envers chacun de nous, Dieu avait contenu sa colère, mais il l'a déversée sur Jésus à la croix, pour qu'il reçoive la sanction que nous méritons. Et nous pouvons être purifiés parce qu'il, lui, a été sali à notre place. Il a été souillé à notre place. Nous pouvons être délivrés parce que lui s'est rendu esclave en acceptant de mourir pour nous. Par son sang donc, il paye notre dette. Voici pourquoi nous lui appartenons. Et c'est la bonne nouvelle. C'est que là où je suis... Où Christ a été condamné, je ne le suis pas, si je demande à Dieu d'attribuer à Christ mon péché. Et par notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons cette certitude du pardon et cette certitude qui est le plus grand cadeau, c'est que nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au roi des rois. Parce que nous ne nous appartenons plus, le seul usage légitime de notre liberté est de glorifier Dieu par une vie sainte. Voici ce que Paul veut enseigner à ses Corinthiens et je vous propose maintenant de conclure. On constate, quand on lit le Nouveau Testament et les textes de cette lettre aux Corinthiens, c'est que toute pseudo-spiritualité, une spiritualité qui n'est pas conforme à l'enseignement des Écritures, se traduit non seulement par un mépris de Dieu ou un amoindrissement des vertus de Dieu, et par un laxisme vis-à-vis du péché. Dieu est amoindri et notre autonomie, notre décision, elle, grandit. Et gardez le texte sous les yeux et regardez ce que Paul fait. Comparez la première phrase et la dernière. Dans la première phrase, Paul cite, il dit « tout m'est permis ». Et à la fin, il dit « vous ne vous appartenez pas à vous-même ». Et c'est cette transformation de vision sur nous-mêmes que nous devons réopérer jour après jour, en nous plaçant devant la croix, en nous rappelant du prix de notre salut, parce que nous avons cette tendance naturelle à croire que nous appartenons à nous-mêmes. Et lui-même, Paul dira plus loin au chapitre 10, verset 23 de la lettre, à ces Corinthiens qui pensaient que tout était permis, Paul dira « moi je fais tout à cause de l'Évangile ». La vraie liberté que nous pouvons expérimenter ici-bas, alors que nous étions vendus au péché, c'est d'être libre de ne plus pécher et de chercher à glorifier Dieu. On discute souvent de ce qu'est la liberté. Les Écritures nous disent « la liberté, c'est d'être libre de ne plus pécher ». Parce que quand on ne peut s'empêcher de pécher, on n'est pas réellement libre. Et c'est la liberté que Dieu nous donne. C'est d'être délivré de la puissance et de l'autorité du péché dans notre vie et donc apprendre à vivre dans cette dépendance et de chercher délibérément dans notre vie à glorifier Dieu. Peut-être qu'alors que nous réfléchissons à ces quelques versets, vous vous dites, comme moi, où vais-je trouver la force de ne pas faire n'importe quoi ? Que comme moi, encore ce matin, je me disais, mais comment est-ce que je peux dire ces choses-là devant l'Église, alors que moi-même, combien d'usages illégitimes de ma liberté je fais au quotidien ? Mais je crois que ce texte nous donne ces deux recours que nous avons dans l'Évangile. Le premier, ce que Paul rappelle, c'est celui de la dépendance. La dépendance à Christ, puisque nous sommes unis à lui. C'est lui-même qui va opérer le changement que nous ne pouvons pas produire. Et donc notre responsabilité à nous est de cultiver notre relation, notre intimité avec lui, pour que lui crée le changement de l'intérieur. Dépendance. Et le deuxième espoir que nous avons dans ce texte, c'est l'assurance. L'assurance, l'affirmation que Paul adresse à ces Corinthiens qui avaient une vie morale complètement désordonnée. Malgré le fait que nous sommes désordonnés, nous sommes le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Et ça, c'est merveilleux, que Dieu se plaît à résider dans des hommes qui sont tellement imparfaits, afin de les changer et de les rendre conformes de plus en plus à son plan. Et donc, nous devons être assurés que l'Esprit de Dieu habite en nous et compter sur ses forces et apprendre à l'écouter comme nous demandent les Écritures. Je voudrais prier. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides en tant que ton peuple à t'honorer dans notre corps, à t'honorer dans notre vision de la sexualité à une époque où il n'y a plus aucune limite, à considérer que celle que tu poses ne nous prive de rien, mais au contraire, nous rend vraiment heureux parce qu'elle te glorifie. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à lutter tous au quotidien pour la pureté, pour t'honorer dans notre corps, dans nos pensées, dans nos regards. Que le mariage soit honoré de tous, qu'il soit respecté, encouragé, promu et béni par toi. Au nom de Jésus. Amen.